Je vais parler du Paris Guide de 1867, qui est en réalité un double gros volume. Ce double gros volume qui fait un peu plus de 2000 pages, je vais y revenir. C'est l'édition d'ailleurs originale. Ça n'est pas un trésor pour autant, puisque c'est un texte qui est complètement oublié aujourd'hui et qui est même très très largement méconnu. Alors, ce Paris Guide de 1867 correspond à l'exposition universelle qui a lieu en France en 1867 à Paris. Pour mémoire, je vous rappellerai que la première exposition universelle fut organisée donc à Londres en 1851, mais sur le 19e siècle, eh bien, Paris devient très vite la capitale mondiale des expos universelles, puisque Paris va jusqu'à en organiser 5 en 45 ans, 1855, 1867, 1878, 1889 et 1900. Et au fond, les historiens ont tendance à considérer quelles furent toutes ces expositions universelles mémorables. Alors en 1867, pour celle qui nous intéresse, exposition universelle qui a lieu précisément du 1er avril au 3 novembre, la France célèbre en quelque sorte l'apogée du Second Empire. Le prince Napoléon, aux côtés de l'ingénieur Le Play, en est le commissaire impérial. Et on dit que 10 à 11 millions de visiteurs accourent, dont une douzaine de monarques, du tsar Alexandre II à l'empereur d'Autriche, en passant par le roi de Prusse et la reine Sophie de Hollande. Une dizaine de monarques et qui vont découvrir à Paris, sur les lieux de cette exposition universelle, environ 50 000 exposants répartis sur 46 hectares au Champ de Mars. Les chiffres sont tout à fait étonnants et, d'une certaine manière, peuvent faire rêver. La réalité apparaît donc tout aussi démesurée. On construit pour l'occasion la célèbre Galerie des Machines sur des plans de Gustave Eiffel. On crée un lac artificiel où accède ce que l'on appellera un peu pompeusement à l'époque des bateaux-mouches par un tunnel, on installe un jardin exotique et les préparatifs, vous vous en doutez, furent très longs. La capitale tout entière fut remuée par des convois incessants. Quant au palais de l'exposition lui-même, il est divisé en quarts, l'un français, les autres belges, allemands et oriental. La dimension universelle de l'événement est mise en avant et pour accompagner cette aventure exceptionnelle, un événement éditorial, donc tout aussi singulier, se met en place sous l'impulsion de l'éditeur Lacroix, et je viens donc maintenant à ce Paris Guide, ce sera la publication donc de ce double volume en 1867, le premier paraît au tout début de l'année et le second attendra le mois de juillet, ce Paris Guide qui se veut un véritable catalogue de l'exposition et un catalogue bien entendu au service de la ville lumière qu'est Paris. Alors, ce Paris Guide regroupe des collaborations quasi inattendues, puisque à la tête des collaborateurs, vous voyez là l'une des pages des signatures, des autographes, à la tête des collaborateurs se trouve évidemment Victor Hugo. Victor Hugo, signature inattendue, hein, il est encore officiellement en exil en 1867. Mais autour de Victor Hugo, on va retrouver tous les grands noms de la littérature de l'époque. Théophile Gautier, Georges Sand, Ernest Renan, Quinet, Dumas fils aussi, Champfleury, Monnier, Banville, Ducamp, etc., etc. Je passe sur des auteurs un peu moins connus, mais on aura aussi des critiques littéraires comme Sainte-Beuve, comme Taine, ou des historiens comme Michelet. Des savants aussi, des architectes. En tout cas, les grands noms de l'époque se donnent rendez-vous. Alors, les éditeurs de Paris Guide interrogent, en fait, j'allais dire, trois types, cela expliquera le S de mon pluriel, trois types de politiques d'écrivains, politique éditoriale, une politique idéologique, et puis peut-être ce que j'appellerais, si j'en ai le temps pour finir, une politique de stratégie personnelle. Au fond, on a là affaire à un projet collectif qui n'est en réalité ni artistique, ni fondamentalement original. Hein. Plusieurs siècles auparavant, Ronsard écrivait déjà la Franciade pour plaire à Henri II. Là, on a l'impression que nos écrivains vont vouloir plaire à leur tour à Napoléon III. Mais au fond, une question se pose, comment se réunir autour d'un projet, et c'est là-dessus qu'on va essayer peut-être de réfléchir, autour d'un projet qui va être marqué par un véritable chauvinisme, un chauvinisme assumé, tout en affichant pour ces écrivains de réelles divisions face au régime en place et tout en privilégiant aussi ses propres motivations en termes de reconnaissance par ses pairs. Parce qu'il y aura un vrai problème qui sera justement d'être ou ne pas être du Paris guide. Alors qu'est-ce que c'est que ce Paris guide ? Je prends le temps, si vous le permettez, de présenter les deux volumes qui circulent. Deux très gros volumes, je disais, pour commencer, deux très gros volumes de 2135 pages en tout, qui sont accompagnés de différents suppléments, dont, je ne les citerai pas tous, un avis des éditeurs, les 120 illustrations des deux volumes, qui ne sont pas comptés d'ailleurs dans les pages numérotées, à quoi s'ajoutent encore, à la fin du premier volume, une nomenclature des rues, les catégories et les prix des places d'un certain nombre de théâtres, de l'Hippodrome, boulevard des Italiens, des renseignements divers aussi sur les magasins réunis ou sur les maisons d'édition Lévy, par exemple, et puis toute une série de publicités avant un grand plan de Paris. Le second volume propose aussi des renseignements de nature variée, d'ordre peut-être plus directement pratique, dont les pages sont cette fois comptabilisées dans les 2135 du total, notamment les modalités d'accès à l'exposition universelle elle-même, les adresses des commissariats de police, des casernes de pompiers, des postes avec les horaires d'élevés, les lignes d'omnibus, des chemins de fer, etc., etc. L'avis des éditeurs, en tête du premier volume, vante, je les cite, « l'œuvre considérable qui est offerte au public ». Ils vantent aussi les noms célèbres des signataires, on en voit quelques-uns ici, Victor Hugo, Michelet par exemple. Le travail, le dévouement de Louis Hulbach, qui a été chargé de la direction de l'ensemble, et dans le second volume, dans un tout petit avis des auteurs, cette fois, ils se félicitent du résultat, dont ils nous disent qu'il a de quoi satisfaire l'amour-propre de tout Parisien et de tout Français. Au fond, ce guide devient véritablement une sorte de promenade dans le Paris de 1867. Et chacun des articles, chacune des contributions de ce double volume propose en quelque sorte une image de Paris, une forme d'illustration de ce qu'est Paris à cette époque. Alors on pourrait s'interroger d'ailleurs sur la catégorie générique de ce double volume. S'agit-il bien, par exemple, d'un album ? C'est très amusant de voir que les éditeurs eux-mêmes auront ce questionnement. Et je les cite, ils écrivent notamment dans leur avant-propos, en un mot, parlant de ce double volume, c'est à la fois, par ses illustrations, un véritable album, et ils mettent même une majuscule au A d'album, par l'ensemble des études qu'il comporte, une encyclopédie de Paris, et par ses renseignements, un guide pratique et élémentaire. Voilà. Au fond, les éditeurs n'ont pas tranché album, encyclopédie, guide. Il y a une sorte de flou qui va perdurer. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, la préface est confiée à Victor Hugo. Alors c'est plus qu'une préface en réalité. C'est plus qu'une préface parce qu'elle est très longue, elle fait plus de 40 pages. C'est le texte le plus long si l'on excepte celui de Théophile Gautier qui sera consacré à la présentation du musée du Louvre. Et Hugo ouvre le volume pour une raison peut-être majeure, mais qui n'est qu'une raison que la rumeur fera circuler de longues années après 1867, on dit qu'en réalité, il serait l'initiateur de ce double volume. C'est lui qui aurait lancé cette idée auprès de Lacroix, et c'est lui qui aurait voulu non seulement manifester là une sorte d'élan patriotique en tant qu'exilé, mais aussi rappeler à tous les Français qu'il est bien toujours vivant et que si ses œuvres ne circulent peut-être que sous le manteau, eh bien, le grand écrivain de la France en 1867, il ne faut pas aller le chercher en France, mais bien en exil, et c'est bien lui. Alors, le poète renoue dans cette préface, je passe très vite, avec ses accents prophétiques, dans laquelle préface, il annonce un avenir radieux. Il oublie Paris. Hein. Il annonce un avenir radieux pour la France tout entière, un avenir qui sera sans guerre, sans frontières, sans contraintes, au cœur d'une nation nouvelle, dite nation motrice, et une nation, la France, donc, qui devra essaimer dans le monde entier. Et il revient à Paris pour nous dire que cette nation aura pour capitale Paris. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, hein, je le cite, « cette nation ne s'appellera point la France, elle s'appellera, ben vous savez comment ça se termine, l'Europe ». Bon, alors aujourd'hui, c'est amusant de citer ces phrases-là, évidemment. Bon, donc, à en croire Paris, pardon, à en croire Hugo, mais c'est presque la même chose, Paris devient le centre du monde, et mieux encore, donc, il annonce dans une envolée lyrique cette France qui s'appellera l'Europe au XXe siècle. Au siècle suivant, plus transfigurée encore, elle s'appellera l'humanité. Alors, oui, bon, on passe, hein, c'est du Hugo dans le texte. Bon, des citations comme ça, il y en a à l'appel dans les 40 pages. Allez, pour le plaisir, je vous en donne une, puisque vous réagissez. Palerme à l'Etna, écrit Hugo, Paris à la pensée. Constantinople est plus près du soleil, Paris est plus près de la civilisation. Athènes a bâti le Parthénon, mais Paris a démoli la Bastille. Bon, voilà, on peut enchaîner comme ça sur des pages et des pages. Non. Mais voilà, donc Hugo donne le ton, un Paris formidable. Bon, il faut rentrer quand même dans le volume, dans les deux volumes, et voir un petit peu de quoi il retourne. En réalité, ce que nous dit Hugo, je passe très vite avec ses grandes envolées et... Bon, voilà, ces exagérations habituelles, c'est que, au fond, ce double volume est écrit dans une perspective qui a été clairement affichée par les éditeurs, par le préfacier, et au fond, une intention à laquelle vont souscrire tous les collaborateurs. Je cite là encore les éditeurs, aucune autre règle que celle d'aimer Paris et de servir la cause du progrès, c'est-à-dire la cause de la liberté. Alors, le volume s'ouvre par une première illustration que j'ai essayé de vous donner là, qui est une vue générale de Paris, avec la Seine comme perspective, une illustration qui est censée montrer à la fois l'étendue de la capitale française, son activité notamment marchande, on voit des bateaux de commerce au premier plan, mais aussi... et vous les devinerez avec difficulté, eh bien, quelques-uns des monuments majeurs de Paris, parce qu'ils dominent la cité, notamment le Panthéon ou les tours de Notre-Dame. Et d'emblée, au fond, le lecteur doit être, ou l'observateur de ces illustrations, doit être saisi par l'immensité, par la variété d'une ville qui s'ouvre à lui, notamment avec ses belles places, des belles places qui devraient en quelque sorte l'inviter à pénétrer dans cette ville festive, dans cette ville qui en réalité s'affiche comme la, ou en tout cas qui veut s'afficher comme la plus belle du monde. On y reviendra sur la dimension festive. Les illustrations valorisent toutes un Paris intemporel et universel qui n'aurait au fond peut-être pas de véritable réalité ou de véritable ancrage géographique, j'ai presque envie de dire une sorte de Paris utopique. En réalité, ce que les illustrations vont mettre en avant, c'est le Paris des œuvres d'art, que ce soit des fontaines splendides ou les œuvres d'art que l'on retrouve dans les musées parisiens. J'y reviendrai là aussi, je pense à des illustrations qui nous représentent la Joconde ou la Vénus de Milo, par exemple. Et puis, bien entendu, les beaux monuments de Paris vont être mis en avant. On va montrer les beaux monuments de la ville. On va montrer aussi, parce que les illustrations essaient d'avoir une approche un peu exhaustive de cette variété urbaine, on va montrer aussi les... alors, l'hôtel de ville, j'oubliais. Mais on va montrer aussi, pardon, les grands jardins de Paris, alors les grands parcs, notamment donc une vue du jardin des plantes. On aura aussi une vue du parc Monceau, donc montrer un Paris qui n'est pas simplement un Paris architectural, mais qui serait aussi, selon notre terminologie aujourd'hui, un Paris vert. On parlait hier, je crois, de Firmin Hiver, et bien là, il y a un Paris vert, justement, qui est montré. Et au fond, le Paris guide qui veut amener dans la capitale, à l'occasion de l'exposition universelle, le plus grand nombre possible de touristes étrangers, n'oublie pas de servir en quelque sorte les environs. Et ce Paris vert va être l'occasion, au fond, d'ouvrir le Paris guide sur des lieux un peu excentrés, hors de la capitale, par exemple le palais de Fontainebleau, où l'on invitera bien entendu les touristes à aller effectuer une rapide escapade. Mais on a aussi, par exemple, une gravure sur Versailles. Les illustrations ne sont pas simplement ici, dans ce Paris guide, au service de cette variété urbanistique. Les illustrations apparaissent dans ce guide également pour donner une idée de la vie parisienne. Et au fond, on va essayer, à travers quelques illustrations qui, vous commencez déjà à vous en faire une idée, sont très loin d'être des illustrations ou des dessins sur le vif. C'est au contraire très réfléchi, très calculé, c'est très pensé tout cela. On va avoir un certain nombre d'illustrations qui essaient de donner une idée de ce que j'ai appelé la manière d'être parisien. Et à l'époque, vous voyez, dans le Paris Guide, le titre, c'est tout simplement « Type parisien ». Vous avez ici un intérieur bourgeois, évidemment, cossu, bien entendu, avec une jeune femme au premier plan faisant la lecture, probablement la mère de famille des deux enfants que l'on voit en arrière-plan, eux-mêmes en train de lire ou d'étudier. Donc, une certaine image de la vie parisienne, qui peut être parfois une vie de loisirs, de distractions. Sur l'illustration que je montre à présent, qui représente un élément du bois de Boulogne, on donne à voir aux touristes de cette expo universelle le club des patineurs en plein hiver, évidemment au bois de Boulogne. Au fond, ces illustrations sont dans le Paris Guide véritablement au service des textes. Les textes eux-mêmes se donne, j'ai commencé de le dire, comme une publicité, une sorte de réclame pour Paris, la vie parisienne et les Parisiens. Au fond, les plus grandes plumes de l'époque se sont réparties les monuments, se sont réparties les curiosités à Paris, et chacun de ces grands écrivains y va de son texte. En moyenne entre 5 et 10 pages, il va de son texte pour célébrer donc ce monument qui lui a été confié. Je donne un ou deux exemples. Ernest Renan est chargé de l'article consacré à l'Institut. Et bien entendu, dans son article, Renan commence sans aucune mesure par une envolée dithyrambique, nous disant que l'Institut est une des créations les plus glorieuses de la Révolution, une chose tout à fait propre à la France. Si on s'intéresse à l'article de Sainte-Beuve, qui lui présente plus précisément l'Académie française, eh bien il évoque, lui, une institution considérable. Michelet, qui fait l'éloge du Collège de France, eh bien présente le Collège de France comme la haute école de la vie, et tout est à cette aune-là. Donc au fond, ce qui est en jeu dans cette présentation que je qualifiais volontiers de chauvine, c'est de montrer un Paris qui serait une ville à nul autre pareil. Alors évidemment, en ce sens, on va beaucoup montrer, on va insister largement, lourdement peut-être, sur ce que j'appellerais volontiers les hauts lieux de l'intelligence ou les hauts lieux de la culture parisienne. Ici, par exemple, une illustration de la bibliothèque du Louvre, ou bien différentes illustrations, la Joconde, pour montrer les richesses artistiques de Paris, qu'elles soient, comme je le disais, des monuments ou qu'elles soient des œuvres majeures. La Joconde, par exemple, je citais la Vénus de Milo tout à l'heure, qui sont évidemment des œuvres majeures de l'humanité, mais des œuvres majeures conservés à Paris. Et je vendais la mèche de l'introduction. L'article le plus long de cet ensemble, c'est l'article de Théophile Gautier, consacré au musée du Louvre, plus de 100 pages. Donc vous voyez, même sur, rapporté aux 2135 pages, c'est tout de même un article très très long. Et au fond, Gautier, dans cet article, prend par la main le visiteur potentiel et l'emmène de salle en salle, de galerie en galerie, et lui fait découvrir à ce visiteur toutes les richesses du Louvre. Donc on a une sorte de visite guidée qui est proposée ainsi à cet étranger qui viendrait à Paris. Vous allez me dire, c'est une image, finalement, pour reprendre ce que l'on abordait ce matin, c'est une image d'intellectuel pour intellectuel. Bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que la variété, la diversité, la richesse de Paris sont rendues, en quelque sorte, par la diversité, la richesse, la variété des textes du Paris Guide. Et en réalité, on se rend compte, notamment si l'on s'intéresse aux illustrations, l'on se rend compte volontiers que des images vont être données d'un Paris vivant, d'un Paris qui n'est pas simplement un Paris muséal ou un Paris intellectuel ou un Paris de rat de bibliothèque, mais bien un Paris vivant. Alors, ce qui sera mis en avant notamment, ce sont les grands boulevards, et les grands boulevards comme des lieux de vie. On voit véritablement des couples assis à une terrasse de café en train de deviser, une mère avec sa fille en train de marcher, en termes anachroniques, on dira en train de faire du shopping, etc., etc. On voit véritablement la vie de Paris. Et au fond, des gravures comme celle-ci sont là pour donner envie aux touristes de mettre les pieds à Paris. Et on le voit bien d'ailleurs. De mettre les pieds à Paris, non pas pour visiter l'Expo universelle, mais pour profiter de l'événement Exposition universelle, pour découvrir la capitale tout entière. Bon, je passe rapidement sur ces éléments-là qui me feraient dire assez volontiers que le pari de ce guide est un pari vainqueur, qui cumule les atouts, qui se targue volontiers de sa supériorité. Au fond, à lire les textes, mais je ne vous cacherai pas que je n'ai pas lu les 2000 pages, mais à lire un certain nombre des textes de ce guide et à regarder avec précision les 120 illustrations du guide, on voit bien qu'il y a un véritable attachement des contributeurs, en tout cas la plupart d'entre eux, la très grande majorité, un véritable attachement de ces contributeurs à la ville capitale. Alors, souvent parce qu'ils sont natifs de Paris, souvent parce qu'ils y vivent et peut-être pour des raisons personnelles, parce qu'ils y ont connu des succès, parce que c'est un endroit où ils rayonnent. Mais en tout cas, même quand ils sont loin, il y a cet attachement à Paris qui transparaît de ces documents. Alors, ce que je voudrais aborder dans un deuxième temps, c'est moins ce Paris qui est présenté avec un véritable chauvinisme que ce que j'appellerais dans un deuxième temps un Paris officiel. Nous sommes en 1867. Alors, 1867, pour nous, évidemment, en 2016, on devine, on voit immédiatement la fin du Second Empire, la chute un peu désastreuse du régime, et on a l'impression que 1867 marque une sorte de fin, de terminus. En 1867, pour les contemporains, ça n'est absolument pas une fin. Je ne dis pas que certains n'espèrent pas cette fin, je ne suis pas sûr que Hugo la devine. En tout cas, 1867, c'est au contraire une véritable apogée du régime. Et au fond, les historiens le reconnaissent volontiers, pour Napoléon III, mettre en place cette exposition universelle, c'est avoir une grande vitrine ouverte et montrer tout ce qu'il a pu faire de Paris, mais plus largement de la France, montrer tout ce qu'il en a fait aux étrangers et principalement, évidemment, à ses confrères, si je puis dire, ou rivaux, chefs d'État, monarques et autres tsars russes. Donc évidemment, il s'agit de faire oublier les déconvenues, l'affaire de l'expédition du Mexique qui se termine juste et qui est quand même assez piteuse, c'est aussi l'occasion de faire oublier tout ce qui ne fonctionne peut-être pas encore très bien avec un milieu ouvrier, par exemple, qui n'est pas dans les meilleures conditions de vie. Je laisse de côté tout cela. En tout cas, le Paris Guide, semble être une véritable affaire politique. Une véritable affaire politique, parce qu'au fond, il n'est pas possible, en 1867, de donner à voir à des touristes, et notamment des touristes étrangers, Paris, telle que la ville existe en 1867, sans être obligé, d'une manière ou d'une autre, de rendre hommage aux réalisations achevées ou en cours du Second Empire. Alors, dans ces réalisations, eh bien, évidemment, c'est d'abord le tracé, la réalisation de ces fameux grands boulevards qui modifient la capitale, dont on sait aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à le reconnaître, que cela a correspondu à des choix de politique et quasiment de stratégie militaire. Plus les boulevards sont larges et moins la possibilité sera donnée à de quelconques révolutionnaires de dresser des barricades. Bon, Haussmann, Napoléon III invoquent des approches beaucoup plus éthiques et notamment des approches hygiénistes, mais il y a un vrai débat là-dessus. Mais bon, je vais passer. Donc les grands boulevards parisiens sont tracés et deviennent de vraies réalités. Des illustrations du Paris Guide nous en montrent plusieurs. Vous aviez le boulevard Montmartre sous les yeux. Voici, par exemple, le boulevard des Italiens. Vous repérerez au premier plan un défilé militaire sur ce boulevard des Italiens. Il s'agit bien pour le régime en place d'occuper ces boulevards. Et puis, bien entendu, rendre compte de Paris, c'est rendre compte, évidemment, de ce qui existe et de ce qui est antérieur, bien sûr, aux réalisations du Second Empire, mais c'est aussi, et dans les textes on le voit bien, parler de ces réalisations. Autrement dit, on a un opéra déjà à Paris, qui est l'opéra Le Tellier, mais, folie des grandeurs ou pas, je ne vais pas lancer la polémique, Napoléon III veut un nouvel opéra, ce qui sera le fameux opéra Garnier, bon, que Napoléon III n'aura pas le temps d'inaugurer, mais bien entendu, dans les contributions de ce Paris Guide, on va rendre hommage à ces développements urbanistiques, à ces constructions architecturales, et on va, bien entendu, montrer que Paris a changé. Je vous donne un ou deux exemples, rapidement, parce que le temps passe vite. Exemple Paul de Kock. Alors Paul de Kock, pour la plupart d'entre vous, c'est un auteur que vous ne connaissez pas, j'imagine, oublié, mais qui est un grand romancier dramaturge du XIXe siècle qui a pas mal de succès à l'époque et qui écrit tout simplement « Paris est tellement changé depuis une quinzaine d'années » pour ajouter évidemment qu'il est obligé, je le cite, « de reconnaître l'amélioration de la ville » puisque la promenade des boulevards a aujourd'hui, dans Paris même, tant de rivales que l'on ne sait pas à laquelle donner la préférence. Voilà un élément qui me paraît assez intéressant. Le visiteur, monté de sa province ou venu de l'étranger, se voit proposer des promenades qui vont emprunter les grands boulevards parisiens, et notamment les boulevards circulaires qui viennent d'être construits ou qui sont en construction. Et pour l'écrivain qui célèbre au fond ce nouveau Paris, il s'agit de sanctifier finalement des choix politiques. Alors cette folie des grandeurs, je le disais, elle apparaît avec la construction de l'opéra Garnier, mais au fond, si je parle de folie des grandeurs, je suis relativement partisan, parce qu'il y a en réalité une vie économique, financière, qui est bel et bien centralisée à Paris. Alors, on sait ce que veut dire le centralisme ou la centralisation. On vit encore sur cet héritage-là, mais qui est au XIXe siècle une vraie réalité. Et Paris, si l'on parle de vie économique, eh bien, il faut évidemment évoquer le développement des grands magasins et, bien entendu, on ne pouvait pas ne pas donner dans un guide de Paris en 1867, on ne pouvait pas ne pas donner une illustration des magasins réunis, hein, premier grand magasin, évidemment. Évidemment, vous avez aussi, en parallèle, un texte qui vous raconte, qui vous explique ce que sont les magasins réunis, qui vous explique même les démarches publicitaires des magasins réunis, comment aller acheter sans payer, c'est la devise de l'époque, vous voyez, on n'a pas inventé grand-chose, et qui nous montre, au fond, au-delà de ces magasins réunis, Paris, alors j'allais dire, comme le cœur de la France, Bon, Zola a parlé d'un ventre. Vous avez ici, évidemment, une illustration avec les halles centrales, bien entendu. Bon, c'est ce pari-là qui va être mis en avant. Les halles centrales et, évidemment, le marché de bovins. Là, on n'a plus l'impression d'être à Paris. Bon, le marché aux bestiaux, je passe. Et, bien entendu, alors, peut-être l'une des illustrations majeures pour la politique économique, en tout cas, du second Empire dans ce Paris-Guide, c'est l'intérieur de la bourse, avec un intérieur particulièrement vivant, particulièrement animé de tous les boursicoteurs. Et vous voyez au premier plan, allez, on va dire trois bourgeois qui sont ici un peu comme au théâtre, en train d'assister à ce marché-là. Vous voyez, ils ont préféré évidemment venir assister au spectacle de la bourse plutôt qu'aller de très bon matin aux Halles. Mais voilà, c'est aussi cela, Paris. Et ce Paris Guide donne cette image-là d'une ville, au fond, conquérante, d'une ville capitale, on peut jouer sur les mots, bien sûr, d'une ville où la vie, évidemment, est tout entière réunie sous tous ses aspects, comme si, d'ailleurs, en dehors de Paris, de ce que l'on pourrait appeler l'agglomération parisienne, eh bien, il n'y avait de place pour rien. Alors, la bourse, la vie économique, mais aussi, bien entendu, on ne peut pas y échapper, la vie festive. Et le Paris Guide rend compte aussi de ce que l'on a appelé la fête impériale. Alors, vous avez ici la galerie des fêtes à l'hôtel de ville. Et vous voyez, évidemment, une grande soirée en belle tenue et beau costume, évidemment, de cette belle société qui connaît la fête impériale. Je m'arrête un instant, simplement pour faire valoir qu'il y a là une volonté, me semble-t-il, tout à fait calculée, en tout cas pour nous, lecteurs de ce Paris Guide aujourd'hui, une volonté qui paraît évidente, de montrer un Paris festif, un Paris, et si vous me permettez le mot familier, je dirais un Paris friqué, un Paris élitiste, un Paris de la réussite, qui est au fond, tout simplement, le Paris en phase avec les visiteurs attendus. On imagine bien que ça n'est pas le paysan auvergnat ou forésien qui va monter de sa province à Paris pour aller visiter l'exposition universelle. On imagine bien que les monarques de l'Europe réunis qui vont se déplacer, plus ou moins avec une cour, sont justement des clients, entre guillemets, de ce Paris festif-là. Alors, fête à l'hôtel de ville, sortie du bal de l'opéra ici, ou bien encore les courses de chevaux au bois de Boulogne, c'est évidemment le Paris d'un certain milieu qui est mis en avant. Et tous les articles renvoient en réalité à un Paris qui est un Paris du loisir, de l'osium, un Paris qui est celui du touriste, mais qui est d'abord, semble-t-il, habité par des Parisiens qui ne travailleraient pas. On ne voit pas le Parisien qui travaille, on voit le Parisien qui profite du travail d'un autre qui sera absent. Si j'en reviens à ce Paris victorieux, économiquement victorieux, qui est celui du Second Empire, alors évidemment, vous trouverez des illustrations qui ne sont pas que des illustrations pratiques, ici une représentation de ce que l'on appelle à l'époque la gare de Strasbourg, illustrations qui ne sont pas que des illustrations pratiques, je disais, parce que ça n'a rien à voir avec le touriste qui arriverait en gare de Strasbourg. Il s'agit là encore de montrer cette économie florissante du Second Empire qui passe notamment par le développement du rail. Et ce développement du rail, vous le voyez ici, il ne s'agira pas d'en montrer à la manière zolienne une machine à vapeur. Ça n'est pas le progrès scientifique, ça n'est pas le travail du cheminot que l'on va montrer, mais c'est bel et bien la majesté d'une façade, la majesté architecturale d'une gare qui est mise en avant pour renvoyer à ce développement économique-là. J'aurais voulu vous dire quelques mots, peut-être plus littéraires que patrimoniaux, mais tout de même quelques mots sur les absents du Paris Guide. Parce qu'au fond, on a plusieurs pages, vous les avez vues, en ouverture qui vous donnent les signatures des grands contributeurs, mais il y a tout de même des absents. Il y a tout de même des absents, je vous donne quelques noms parmi les plus célèbres. Flaubert n'en est pas, Barbey d'Aurevilly n'en est pas, Jules Verne n'en est pas, Verlaine n'en est pas, Mérimée n'en est pas, et quelques autres moins importants. Je me disais, en préparant cette communication, qu'il y avait matière à s'interroger sur ces absences-là. On voit bien, assez vite, au fond, ce que nous disent les contributeurs, ce que nous disent les illustrations, mais on aurait envie, bien évidemment, de s'interroger sur ce qu'auraient pu nous dire ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été exclus, ont été laissés de côté. Alors, politiquement parlant, c'est assez compliqué, parce qu'au fond, Hugo continue d'être en exil et de dire beaucoup de mal du Second Empire. Flaubert n'a jamais pris le chemin de l'exil, fréquente le salon de la princesse Mathilde, qui est la cousine de l'empereur, est parfaitement intégré, au fond, à ce régime. Il a reçu la Légion d'honneur l'année qui précède l'exposition universelle. On peut imaginer qu'il aurait accepté, au fond, de contribuer au volume sans être particulièrement critique par rapport au régime. Bon, donc là, il se joue quelque chose qui serait à réfléchir de manière plus approfondie. Ce que je voudrais simplement faire valoir pour essayer de m'approcher de la fin, c'est que, au fond, un certain nombre de nos contributeurs ont accepté, semble-t-il, de parler de Paris en prenant des chemins de traverse. Je vous donne un exemple, Georges Sand, qui nous parle de Paris, mais son texte s'intitule « Les rêveries à Paris ». Et dans son texte « Les rêveries à Paris », qui démarre sur une sorte de rêverie bucolique, et une Georges Sand héritière de Rousseau, en quelque sorte promeneuse solitaire dans Paris, très vite ça dérape. Son texte dérape parce qu'elle considère que Paris est bel et bien, comme ses confrères ou consoeurs, elle considère que Paris est bel et bien le centre du monde culturel, littéraire, etc. Mais elle en profite, à partir de ce constat, pour appeler au développement, vous voyez, on sort complètement de notre sujet, au développement des écoles dans tous les villages de France. Finalement, le texte passe, ça ne pose pas de problème. Alors, simplement pour terminer, il y a une chose qui paraît assez évidente, c'est qu'au fond, ce double volume a fait véritablement événement. On a l'événement politique, l'événement historique, qui est l'exposition universelle de 1867, et puis on a cet événement littéraire, ou du moins cet événement éditorial. Parce que, au fond, une publication comme celle-là, dans son format, dans son volume, plus de 2000 pages, je disais, dans sa manière de recueillir les contributions, malgré les absents que j'évoquais, des plus grands noms de l'époque, dans ce discours que je qualifiais de profondément chauvin, ça ne me gênerait pas de dire nationaliste, dans sa manière de contribuer à sanctifier. Et franchement, si vous lisez quelques-uns des extraits, vous verrez que les mots que je choisis là ne sont pas trop ne sont pas excessifs. À sanctifier le régime en place, il y a véritablement un événement éditorial. Et on a l'impression, au fond, que mettre Paris en album, puisqu'ici, il s'agit bien de mettre Paris en album et non pas la France, mais en même temps, on a compris que pour un Hugo, la France, c'est Paris et rien d'autre. Mettre Paris en album, c'est aussi, et ça, c'est un élément sur lequel je veux bien terminer, c'est aussi une véritable politique de stratégie littéraire ou éditoriale. C'est-à-dire qu'au fond, pour nos écrivains, mais c'est un peu un échec, hein, je le dis d'avance, pour nos écrivains, il y a là une manière de voler un peu la vedette aux politiques, de voler un peu la vedette à l'événementiel et de se réapproprier quelque chose qui est en train de leur échapper. Au fond, à l'exposition universelle, si l'on accepte les publicités de la maison Lévy, il n'y a pas de place pour la littérature. Et avec ce pari guide, eh bien évidemment, les écrivains français de 1867 se réapproprient un espace qu'au fond, on ne leur a même pas concédé, qu'on n'a même pas envisagé, je crois, de leur concéder. On est dans ce pari économique, boursicoteur, commercial de 1867 et de cette fin du Second Empire. Il y a là une manière de se venger, mais une vengeance, au fond, qui est bienveillante, puisque la plupart des textes, il faut vraiment lire de près pour trouver des critiques, puisque le chauvinisme dont je parlais les interdisent, ces critiques. Donc, excepté quelques critiques que l'on ne découvrira que bien cachées, en quelque sorte, il y a une manière de servir cet événement politique tout en se disant qu'on peut peut-être récupérer quelque chose de l'affaire. Alors, je disais, et je termine là-dessus, que c'est une sorte d'échec éditorial, parce qu'au fond, je l'annonçais d'emblée, le deuxième volume ne paraît qu'en juillet. D'un point de vue marketing, si vous me permettez le mot, c'est déjà un peu maladroit. L'exposition universelle est ouverte déjà depuis plus de 2 mois. Donc, bon, il vaut mieux ne pas rater le coche. Et puis, au fond, on le voit bien, l'exposition universelle terminée, ce pari guide, eh bien, va tomber progressivement dans l'oubli. Il ne rivalise pas avec les guides Johann, parce que, aussi, ce que j'annonçais d'emblée n'a jamais été réglé. Un guide, une encyclopédie de Paris, on ne sait pas trop de quoi il retourne. Il n'est pas question de se promener dans Paris avec les 2 volumes à la main. Et je passe sur l'aspect purement matériel et le poids des 2 volumes. Mais rentrer dans le texte de Sand, de Michelet ou d'un autre, c'est en prendre, et là je vais le dire encore familièrement, mais pour 10 ou 20 minutes de lecture. Voilà, ça n'est pas pratique, ça n'est pas commode. Et au fond, 1867 passé, eh bien, les touristes qui viendront à Paris au cours des années suivantes, eh bien, évidemment, ne se serviront plus de ce guide, et ce guide-là va être complètement oublié, à tel point que pour la plupart des écrivains signataires de ce guide, en règle générale, leurs contributions ne sont même pas recensées dans leurs œuvres complètes ou dans leurs œuvres telles qu'elles peuvent être éditées. Même le texte de Hugo ne fait pas partie, j'allais dire, des œuvres habituellement lues de Victor Hugo. Voilà. Bon, faute de temps, je vais en rester là. Je vous remercie.